Le journal est présenté ce soir par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Une presse qui scelle le texte de la Constitution, où figure désormais la liberté garantie pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. L'image est forte, la cérémonie très solennelle en présence d'Emmanuel Macron. Nous reviendrons sur ce moment très symbolique avec Jeanne Serrin dans un instant. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, nous nous intéresserons aussi à l'index de la parité femmes-hommes, instrument très critiqué, et au cyberharcèlement dans les violences conjugales. Dans ce journal également, la création d'une nouvelle agence dédiée à l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Gaza et l'aide humanitaire, l'Union européenne et les États-Unis annoncent un corridor maritime depuis Chypre pour acheminer davantage d'aide. Et puis, nous irons à Porto. Les élections législatives ont lieu ce week-end au Portugal. Au reportage sur Chega, ce mouvement d'extrême droite qui progresse. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, elle prend des formes différentes. À Kaboul, ce sont des groupes d'Afghanes qui manifestent discrètement, car elles sont en danger, contre la répression des talibans qui les empêchent de sortir. À Bukavu, en République démocratique du Congo, ce sont des milliers de Congolaises vêtues de noir en signe de deuil pour les morts des conflits dans l'est du pays. C'est l'UNICEF qui aujourd'hui indique que plus de 230 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui dans le monde ont été excisées, ou pire, c'est un chiffre en forte hausse. C'est l'Irlande qui vote pour moderniser sa constitution de 1937 sur la place des femmes et la famille. Voilà des exemples parmi d'autres. En France, le scellement de l'IVG dans la constitution, le sceau de la République sur la loi inscrivant la liberté garantie d'accès à l'IVG dans la constitution. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Quelques centaines de personnes étaient présentes, place Vendôme à Paris. Une cérémonie ouverte au public, cérémonie très solennelle et à haute teneur symbolique.
Oui, avec d'abord le poids du protocole, à l'image de cette presse datant du 19e siècle qui a servi à sceller le texte de loi du sceau de la République. Et puis sur la forme, il y a d'abord la date choisie du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. C'était aussi la première cérémonie de scellement en présence d'un public. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, la voulait populaire mais aussi transpartisane. Étaient présents quelques élus de droite, beaucoup d'élus de gauche et sur scène, aux côtés du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, des parlementaires de l'opposition qui ont permis l'aboutissement du texte, communistes, insoumis, écologistes, dont la sénatrice Mélanie Vogel.
C'est important de l'afficher, de montrer que c'est une victoire que personne ne pourra s'approprier. Je sais à qui on doit cette victoire et voilà, je pense que c'est important de rappeler que toutes les personnes qui ont fait quelque chose, même si cette chose paraît petite, si c'était envoyer un mail, si c'était faire un tweet, quelle que soit cette petite chose, eh ben c'est grâce à eux, il faut qu'ils en soient fiers.
C'est ensuite la chanteuse Catherine Ringer qui est venue clôturer la cérémonie avec une Marseillaise féminisée.
Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons.
On a pu assister aussi à des moments plus spontanés. Quand à la fin de la cérémonie, l'hymne des femmes a été entonné par la foule à l'initiative de Sarah Durocher, la présidente du planning familial.
On a voulu chanter l'hymne des femmes parce que pour nous, c'est quelque chose aussi qui s'inscrit dans une histoire de combat. C'est des décennies en fait, de féministes qui se battent. Donc on est simplement et humblement dans la continuité en fait, de ce combat-là.
Une cérémonie qui fait donc d'ores et déjà partie de l'histoire et où le chef de l'État a donc fait le choix du symbole plus que des annonces. Dans son discours d'une dizaine de minutes à peine, il n'en a fait qu'une seule. Son intention de vouloir inscrire dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne la liberté garantie d'avoir recours à l'IVG. Une manière d'inscrire la France dans sa tradition universaliste.
Merci Jeanne Serrin. C'est un autre aspect du combat des droits des femmes. La Fédération nationale Solidarité Femmes lance une campagne de sensibilisation nationale autour des cyberviolences conjugales. Contrôle des SMS, surveillance des déplacements via des logiciels espions, diffusion de vidéos intimes, l'utilisation du numérique reste encore trop souvent un impensé des violences conjugales. L'année dernière, sur les 95 000 appels reçus par les écoutantes du 3919, 2500 appels concernaient ce problème, Anne Fauquemberg.
Au 39-19, les femmes qui appellent pour des cyberviolences conjugales hésitent peut-être encore un peu plus, car ces violences sont mal connues, témoigne Aurore Lechat, la responsable de la ligne téléphonique.
On a quand même énormément d'appels qui commencent par « je ne suis pas sûre d'être victime de violence, mais je me pose des questions ». Quand on se pose des questions, c'est qu'il y a une forme de violence, voire plusieurs formes de violence. Les personnes viennent chercher du renseignement, de l'information, parce qu'elles sentent bien que dans leur relation, il y a quelque chose qui n'est pas normal.
La campagne de sensibilisation nationale propose 3 spots de 30 secondes montrant des scènes à première vue anodines, mais qui sont en réalité de vraies scènes de cyberviolence. Ici, un père aux allures bienveillantes qui regarde un dessin animé avec sa fille, mais qui en parallèle traque sa femme sur son téléphone quand il se rend compte qu'elle n'est plus au bureau.
Utiliser son téléphone pour traquer et contrôler sa conjointe, c'est du cybercontrôle. Les cyberviolences sont des violences conjugales.
En plus de ces spots télé, la Fédération Solidarité Femmes a préparé un cyberviolentoscope, un document pour évaluer si la relation de couple n'est pas faussée par les outils numériques. Mine Gounbaï, la directrice générale.
Quand on est dans le vert, c'est que ce sont des situations qui sont considérées comme saines, et plus on descend dans l'orange et le rouge, plus on est dans des situations qui ne sont pas acceptables et qui nécessitent que les femmes soient accompagnées. Par exemple, dans le rouge, on pourrait avoir effectivement les menaces, les contraintes, le chantage aux nudes ou aux vidéos intimes qui auraient été faites dans le cadre de relations consenties et qui, au moment de la rupture, eh bien, deviennent des outils de menace.
La pédagogie et la diffusion de ces outils, c'est actuellement la clé pour lutter contre ces cyberviolences conjugales, même si une loi de 2020 condamne, par exemple, le fait de suivre son ou sa partenaire avec un logiciel espion sans son consentement. Son application est encore très imparfaite.
Anne Fauquemberg, les femmes sont-elles les égales des hommes en matière de rémunération et de promotion ? Du chemin a été fait, indique l'index égalité femmes-hommes. 88 sur 100, c'est la note générale. En 2023 et en 2024, ils stagnent donc, même si les entreprises sont plus nombreuses à déclarer leurs notes basées sur 5 critères différents. Rappelons que chaque année, au 1er mars, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur index. Cet outil est d'ailleurs très critiqué. C'est un vaste enfumage, affirme la première secrétaire de la CGT, Sophie Binet. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, a reconnu aujourd'hui qu'il devait être modifié. Les explications de Vera Lou Deride.
Un instrument qui peut être amélioré. Voilà ce qu'a précisément déclaré la ministre dans le journal Les Échos au sujet de cette note attribuée aux employeurs qui comprend l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, l'écart dans leur augmentation annuelle, dans leur promotion et aussi l'augmentation des femmes à leur retour de congé maternité. Catherine Vautrin a annoncé qu'une concertation des partenaires sociaux aurait lieu dès ce mois-ci pour la réformer et que la directive européenne de 2023 pour l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes serait transposée en 2025 plutôt qu'en 2026. Ces annonces font suite à un rapport du Haut Conseil à l'égalité, le HCE, qui lui a été remis ce jeudi. Ce texte propose notamment de confier au pouvoir public une automatisation du calcul de cet index d'égalité pour que les entreprises ne soient pas à la fois juges et parties. Il préconise aussi d'introduire de nouveaux indicateurs sur le temps partiel ou les bas salaires. Julien Méry, délégué à la formation au Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, se félicite de ces perspectives d'avancée.
Les annonces effectivement de Madame Vautrin, c'est une très bonne chose et finalement ça rejoint certaines préconisations qui ont été portées du moins par une majorité de nos membres. Pour ce qui est effectivement d'introduire par exemple le temps partiel et la question des bas salaires dans l'index, pour une majorité des membres ça va dans le bon sens puisque c'est une manière de s'attaquer au facteur essentiel des écarts de salaire femmes-hommes. On sait que le temps partiel il joue pour beaucoup, 80% des temps partiels sont occupés par des femmes et on sait que la surreprésentation des femmes dans les bas salaires il joue pour beaucoup puisque là aussi on est près de 60% de femmes dans ces bas salaires.
D'après les chiffres du ministère du Travail rendus publics ce vendredi, seuls 2% des entreprises ont obtenu la note maximale de 100. Autrement dit, 98% d'entre elles doivent montrer plus d'efforts pour faire progresser l'égalité.
Vera Lou Deride. Enfin, je vous signale cette exposition à l'Assemblée nationale depuis ce matin. Aux urnes citoyennes, à partir de documents et d'archives, cette exposition vise à montrer le chemin parcouru, notamment depuis l'accession au droit de vote des femmes en France. C'était en 1944. Altice, dans le collimateur de la justice, une enquête a été ouverte en France par le parquet national financier, notamment pour des soupçons de corruption autour du groupe de télécom à Altice, déjà visé par des investigations au Portugal pour les mêmes infractions. L'enquête portugaise avait mené à l'arrestation d'Armando Pereira, bras droit de l'homme d'affaires français Patrick Drahi, propriétaire d'Altice. Altice qui est la maison mère de l'opérateur français SFR et des médias BFM TV et RMC. Une nouvelle stratégie dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des moyens plus importants, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Sébastien Lecornu. Soit l'armée française prend date, soit elle décroche. Voilà comment le ministre des Armées a résumé l'enjeu. Si l'exécutif finançait des recherches depuis 2019, la guerre en Ukraine a démontré l'efficacité de cette technologie pour piloter les drones, rendre des canons plus précis ou encore mieux traquer l'ennemi. Paris a donc décidé d'investir dans 300 recrutements et des installations de pointe pour se positionner à l'avant-garde sur le sujet. Il va aussi créer une nouvelle agence dédiée, Valentin Grille.
Des moyens beaucoup plus conséquents seront mis sur la table. 300 millions d'euros par an pour cette nouvelle LPM ou loi de programmation militaire. L'AMIAD, l'agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense, va donc toucher 10 fois moins d'argent que son équivalente américaine, la DARPA, mais un budget 3 fois supérieur à la période 2019-2024, comme l'analyse Alexandre Papa-Emmanuel, enseignant en cybersécurité à Sciences Po.
On peut dire que cette LPM impose d'opérationnaliser cette innovation est de faire en sorte que l'intelligence artificielle finalement atterrisse, traverse ce qu'on nomme la vallée de la mort, cette vallée entre innovation et usage par les militaires concrètement sur le terrain. Et je crois que c'est l'ambition de cette agence.
La France se positionne en pointe sur deux éléments clés. Les ressources humaines d'abord, avec le recrutement d'un ancien dirigeant de Google, Bertrand Rondepierre, sur la puissance de calcul. Ensuite, avec un supercalculateur classifié, le premier du genre en Europe. Un enjeu de souveraineté pour Laure de Roussy-Rochegonde, responsable du Centre géopolitique des technologies de l'Institut français des relations internationales.
C'est important parce que les données d'entraînement pour les intelligences artificielles ne sont évidemment pas open source. Il faut que les armées françaises puissent utiliser les données qu'elles ont de leur propre théâtre d'opération, etc., sans risquer de voir leurs données leur échapper parce qu'elles seraient stockées sur un serveur d'un acteur étranger, par exemple.
Reste encore en suspens sur ce volet stratégique la relocalisation des serveurs où seront stockées les données ou encore des puces et autres semi-conducteurs. Mais l'intelligence artificielle promet à terme de révolutionner l'analyse de données, l'efficacité des armes ou encore la maintenance des véhicules militaires.
C'était l'une des images fortes des manifestations des Gilets jaunes. Une charge de police qui avait fait chuter une septuagénaire à Nice en 2019, Geneviève Leguet. Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné cet après-midi à 6 mois de prison avec sursis le commissaire de police reconnu coupable d'avoir ordonné la charge. Les élections européennes se rapprochent. Elles auront lieu en juin prochain et le sujet des temps de parole, du décompte des personnalités et des partis refait surface avec son lot de polémiques tout aussi régulières que les élections ainsi que le rappel des règles. Bonsoir Eric Chavroux.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous.
Philippe de Villiers qui anime une émission sur CNews ainsi que Roselyne Bachelot seront bientôt comptabilisés dans les temps de parole à la télévision et à la radio. L'ARCOM en a ainsi décidé dans le cadre de ses recommandations et le régulateur de l'audiovisuel et du numérique prône le principe d'équité à partir du 15 avril prochain.
La campagne électorale des européennes a déjà de fait commencé, estime en effet Roch-Olivier Maistre, le président de l'ARCOM, et la période d'observation avant le scrutin va donc passer de 6 semaines à 8 semaines sur la base d'un principe d'équité, pas d'égalité. À partir du 15 avril, les télévisions et radios n'auront pas besoin de compter à la seconde près les temps de parole de chaque candidat en lice, ni ceux de leur soutien explicite, pas d'impératif non plus de créneaux horaires particuliers. L'ARCOM a également tranché au sujet de certaines personnalités, alors que le Conseil d'État a récemment demandé un contrôle renforcé du pluralisme des chaînes. Dès les prochains jours, Philippe de Villiers, qui anime une émission sur CNews rediffusée sur Europe 1, va ainsi voir son temps de parole comptabilisé, mesure valable, y compris après le scrutin. Le régulateur de l'audiovisuel d'expliquer que le souverainiste soutien d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022 et ancien ancien président du Mouvement pour la France, intervient, je cite, dans le champ politique. La chaîne d'information dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré devra par ailleurs respecter son obligation de pluralisme en diffusant par exemple des extraits de meetings, mais souvent boycottée par les élus écologistes, elle sera déchargée de la contrainte d'équilibrer leur temps de parole en plateau. Enfin, l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot, devenue notamment chroniqueuse sur BFM, verra elle aussi désormais son temps de parole comptabilisé, quelle que soit sa tribune audiovisuelle et jusqu'à nouvel ordre.
Merci Éric Chavroux. Au Portugal, avant les élections européennes, ce sont les législatives qui ont lieu. Elles ont lieu dès ce week-end. Au pouvoir depuis 2015, les socialistes jouent gros. Élections anticipées après la démission d'Antonio Costa, le Premier ministre, dont l'entourage, le gouvernement, est mis en cause par la justice dans des affaires de corruption et de trafic d'influence. Des soupçons qui servent de carburant à l'extrême droite de Chega. Reportage à Porto, Julie Pietri.
Mais non, ce n'est pas difficile pour les socialistes de faire campagne. Nuno Oliveira et Alice Maria, militants PS, pensent la même chose. Ces accusations de corruption sont injustes. Je suis très optimiste, on va gagner. La démission du Premier ministre Antonio Costa, la mise en examen de son chef de cabinet, de son ministre des infrastructures aussi, soupçonné de malversation, corruption et trafic d'influence, l'extrême droite fait campagne là-dessus. Immense panneau. Le Portugal a besoin d'un nettoyage dans les rues de Porto.
Le gouvernement d'Antonio Costa a tombé parce que la corruption.
Ricardo Jorge Pinto, professeur en communication politique.
Et Chega, il a entendu que corruption peut-être serait un thème pour capter l'attention des électeurs, surtout les électeurs plus radicaux qu'il y a en Portugal, vote de proteste.
Jorge Sequeira est le président du Parti Socialiste de la région d'Aveiro. Près de Porto.
Le Parti socialiste, quand il est au gouvernement, assure qu'il y a un pouvoir judiciaire totalement indépendant. Et on défend l'application de la loi également pour tous.
Lui préfère mettre en avant des mesures prises par les socialistes. Augmentation forte du salaire minimum, crèche gratuite. Le pays, en quasi-faillite il y a 10 ans, est aujourd'hui en excédent budgétaire. Sa dette a diminué, mais les investissements ont aussi manqué dans l'éducation, par exemple, ou la santé.
Julie Pietri, envoyée spéciale de France Culture à Porto. À Gaza, la situation est telle qu'une famine paraît inévitable, alertait hier encore l'ONU, et la détresse des civils après 5 mois de bombardements israéliens est telle également qu'elle oblige les Occidentaux à réagir. Après l'annonce du président Joe Biden concernant la construction d'une jetée temporaire à Gaza pour permettre des aides massives, je cite, cette fois l'Union européenne et les États-Unis annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer l'aide humanitaire dans les jours qui viennent. Christian Chesneau.
Ce corridor maritime humanitaire a été baptisé Almatea. Il pourrait démarrer dimanche prochain, selon les vœux d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce dispositif international est parrainé par l'UE, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Grèce, Chypre, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. Il s'agit d'organiser une noria de navires chargés notamment de nourriture et de médicaments. Les bateaux partiraient de Larnaca pour rejoindre Gaza. On ne sait pas encore précisément où seraient déchargées les cargaisons et par qui seront-elles distribuées. Les Nations Unies devraient être associées à l'opération. Israël, qui a donné son feu vert à ce corridor maritime, effectuera des contrôles de sécurité sur les chargements destinés à la population de Gaza aujourd'hui affamée. Les ONG et l'ONU insistent sur le fait que les acheminements maritimes, mais aussi aériens, ne peuvent se substituer au ravitaillement terrestre par camion depuis l'Égypte. Il faut savoir que des montagnes d'aide sont toujours bloquées au poste frontière de Rafah. Cette route terrestre reste la solution optimale, répète l'ONU, parce que c'est la plus facile, la plus rapide et la moins coûteuse.
Christian Chesneau. À Paris, au moins 70 pays se sont engagés aujourd'hui à revoir et adapter les façons de construire des bâtiments afin de freiner le réchauffement climatique, tout en protégeant le bâti des aléas qui se multiplient. C'est ce qu'annoncent cet après-midi l'ONU et le gouvernement français, les ministres de l'Environnement ou la Construction des pays signataires, dont les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais pas la Chine. Eh bien, ces pays ont adopté une déclaration de Chaillot lors de ce premier premier forum mondial bâtiment et climat. Normes, financement, immobilier, matériaux, énergie, l'objet est à la fois de décarboner l'industrie du bâtiment, fortement émettrice de gaz à effet de serre, responsable de l'élévation des températures mondiales. Il s'agit aussi de rendre le bâti plus résilient face aux tempêtes, inondations et autres canicules qui se multiplient. Enfin, sachez que Hong Kong a présenté aujourd'hui son projet de nouvelle loi de sécurité nationale qui va élargir l'arsenal juridique répressif déjà à la disposition des autorités. Près de 4 ans après l'adoption de la loi de sécurité nationale imposée par la Chine qui a entravé la plupart des libertés civiles dans l'ancienne colonie britannique. Un mot du temps demain. Après une accalmie de courte durée, un nouvel épisode pluvieux viendra demain concerner tout le pays pour ce début de week-end. Les températures maximales seront assez homogènes avec 10 à 15 degrés dans l'Hexagone et toujours jusqu'à 17 degrés en Corse. Ce journal est terminé. Il a été préparé avec Jean-François Braun.